La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.
Pierre Fumolo, bonjour. Merci de venir passer du temps avec nous. Et on a eu déjà l'occasion de faire une première émission sur l'immunologie et le cancer. Et là, nous allons aborder la question de la prévention. Et il est sûr que pour la santé à venir, le thème de notre émission, la lutte contre le cancer est devenue une stratégie majeure. Et on peut dire malheureusement que depuis 1990, les cas de cancer ont doublé en France métropolitaine, ce qui est quand même particulièrement inquiétant. Et c'est pour éclaircir cette question de la prévention que, Pierre, tu as bien voulu nous rejoindre. Je te remercie vivement et nous allons essayer de voir déjà dans un premier temps qu'est-ce qu'on entend par prévention en termes de cancer.
Merci Jean-Pierre quant à votre invitation pour parler d'un problème important qui est effectivement la prévention en cancérologie. Globalement, 40% des cancers sont évitables. C'est-à-dire qu'en limitant l'exposition à certains facteurs qui sont actuellement bien identifiés, il serait possible de réduire le risque d'apparition de la maladie cancéreuse et des complications du cancer en termes de morbidité et en termes de mortalité.
Oui, c'est énorme, hein ?
C'est énorme. Donc, 4 cancers sur 10, quand on sait que le cancer est un problème majeur de santé publique dans le monde globalement. Donc, on est devant quelque chose qu'on appelle un peu schizophrénique. C'est-à-dire que, globalement, il est dangereux d'être sédentaire, de fumer, de boire, de manger certaines choses, mais la société actuelle, en 2024, impose des modes de vie très statiques et la pression est permanente pour consommer certains aliments nocifs pour le cancer, et aussi pour éventuellement fumer à travers quelques éléments publicitaires. Donc, il faut bien connaître ces éléments de prévention pour diminuer l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cancers par an.
Alors c'est pas un problème d'information, donc c'est un problème de compréhension, parce que si les gens sont informés, et tu le dis très bien, il y a une information qui est faite, et pourtant ils ne le respectent pas dans l'attitude schizophrénique.
Oui, parce qu'ils ne respectent pas les informations, parce que ces informations sont contraires un peu à notre façon de vivre actuellement en 2024. On est plus sédentaire, par exemple, en 2024 qu'on ne l'était, disons, 10 ans, 20 ans auparavant. Et c'est un élément important et on sait que l'activité physique adaptée, hein, il ne s'agit pas de faire du marathon, que l'activité physique est un élément important dans la prévention des cancers et j'y reviendrai.
D'autant plus qu'on a un appareil génétique qui a été prévu initialement pour les chasseurs-cueilleurs qui parcouraient 40 km par jour.
Tout à fait. Et à l'époque, le cancer n'était pas un problème de santé publique puisqu'il y avait d'autres maladies, en particulier des maladies infectieuses, qui étaient au premier plan. Je voudrais revenir aussi sur la définition de la prévention. Il y a 3 types de prévention. La prévention primaire, dont on va parler essentiellement aujourd'hui, c'est effectivement éviter l'apparition des cancers par, disons, un abord au niveau comportemental, au niveau de la vaccination ou, un abord environnemental. Ça, c'est la prévention primaire qui entraîne effectivement 4 cancers sur 10.
Faire en sorte que, de toute façon, on a des cellules cancéreuses qui se mettent en place chaque jour, mais qui sont détruites. C'est avoir des mesures de prévention qui conduisent à ce que ces cellules cancéreuses qui naissent ne prolifèrent pas.
Tout à fait. On a vu l'autre fois le rôle important des réactions immunologiques, de l'immunothérapie dans notre immunologie personnelle, dans le rejet de ces cancers. Deuxième type de prévention, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire, et tu l'as dit, c'est le dépistage, qui permet de diagnostiquer un cancer tôt, et on sait qu'un cancer globalement, plus il est vu tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Et enfin, un troisième élément qu'on méconnaît un peu, ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire chez des malades qui ont fait un cancer, comment éviter les rechutes et comment éviter les séquelles thérapeutiques. Et on travaille beaucoup actuellement sur cette notion de diminuer les séquelles thérapeutiques, en particulier chez les enfants qui ont eu donc des cancers. Donc, trois types de prévention, primaire, secondaire et tertiaire. On va essentiellement évoquer aujourd'hui la prévention primaire. Je ne méconnais pas la prévention secondaire, mais tu l'as dit, surtout on est sur Octobre Rose, c'est quelque chose qui est mieux connu au niveau du public.
Et dans le cadre de cette prévention primaire, qui manifestement n'est pas respectée dans une attitude schizophrénique, c'est d'autant plus gênant qu'aujourd'hui on préconise une prise en charge, une autogestion de notre propre santé. Donc ça veut dire que si on nous incite à nous autogérer pour être préservés, raison de plus pour avoir des mesures de prévention. Mais alors peut-être que la difficulté, c'est que le public n'est pas suffisamment informé sur les facteurs qui sont des facteurs de production de cancer et que par conséquent, ils se laissent aller à des modifications de comportement qui sont dangereuses parce qu'ils sont mal informés sur les principaux types de facteurs qui peuvent conduire au cancer.
D'accord. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Il y a certains facteurs qui sont bien connus, d'autres qui sont moins bien connus, et c'est souvent l'association de différents facteurs, on reviendra sur la notion d'exposome, qui actuellement est en train de se développer pour parler d'une prévention individualisée. Mais auparavant, si tu veux, on pourrait peut-être dire qu'il y a trois familles de risques évitables. D'une part, des problèmes comportementaux.
Oui.
Alors dans les problèmes comportementaux, on connaît très bien le tabac. Manifestement, le tabac est à l'origine de beaucoup de cancers. Certes, le cancer du poumon, mais aussi les cancers de vessie, intervient vraisemblablement dans le cancer du pancréas. Et pour le cancer du sein, c'est moins évident. Mais le tabac, c'est le principal agent carcinogène pour la cancérologie. Ça, c'est le premier élément. L'alcool. Alors, l'alcool, c'est très difficile d'en parler. Autant le tabac, il ne faut pas fumer, autant au niveau de l'alcool, c'est un élément, si tu veux, de dosage, du nombre de verres de vin par jour. C'est quelque chose qui est difficile, mais il est clair, il semble en particulier que pour le cancer du foie, qui entraîne des cirrhoses, et la cirrhose peut entraîner ce qu'on appelle le cancer du foie secondairement, ce qu'on appelle les hépatocarcinomes.
D'autant plus difficile d'en parler en France, où oui, c'est une dimension économique importante.
Et sociétale importante. Tout à fait d'accord avec toi. Mais il n'empêche qu'on sait que les cirrhoses, qui peuvent être liées soit à l'alcool, on y reviendra après, soit aux hépatites, sont à l'origine des cancers du foie primitifs.
La loi Évin, il y a déjà longtemps, avait essayé de lutter contre ça. Et il semble que ça n'ait pas bien marché.
C'est pas bien marché, mais il faut admettre des choses positives. La consommation d'alcool globalement en France a quand même diminué par rapport il y a 20-30 ans, peut-être plus que n'a diminué la consommation de tabac malgré l'augmentation du prix du tabac.
Donc c'est une première catégorie de facteurs de risque sur lequel on a une action.
Là. Oui, c'est ce qu'on appelle, quand c'est pas fini, tu as aussi le rôle de l'alimentation. Alors ce qu'on sait clairement, c'est que l'hyperconsommation de viande rouge, de charcuterie, et de produits qu'on appelle ultra transformés, qu'on achète très souvent dans les hypermarchés, sont des facteurs carcinogènes, en particulier pour le cancer colorectal. À l'inverse, manger des fruits, des légumes, des céréales complètes diminue en fait l'incidence. Et enfin, il y a l'exposition au soleil, qui est un aimant pour les mélanomes. Bon, là, il y a eu une prise de conscience quand même, globalement, au niveau du public. On s'expose beaucoup moins au soleil qu'on le faisait il y a 50 ans. Et puis, bien sûr, on en a parlé tout à l'heure, la sédentarité et la diminution de l'activité physique peut entraîner l'augmentation des risques de cancer. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, des familles comportementales. Ensuite, tu as, certaines affections peuvent induire l'émergence de tumeurs.
Des virus, par exemple.
Il y a des virus. Il y avait le virus d'Epstein-Barr, mais ça, c'est moins fréquent. Le HIV, le virus de sida. On a quand même des cancers. Mais c'est surtout le virus de l'hépatite, D'où l'intérêt de la vaccination au niveau de l'hépatite, hein, les hépatites, en particulier l'hépatite B, entraînant donc ensuite des cirrhoses et des cancers du foie. Et puis, on a aussi l'HPV, le papillomavirus, induisant non seulement les cancers du col de l'utérus, mais beaucoup plus maintenant récemment, une augmentation des cancers oropharyngés. Compte tenu des modifications de la sexualité. Et donc, on a des vaccins pour ce type de, disons, de maladies infectieuses, et une bonne vaccination de l'hépatite, une vaccination des adolescents pour l'HPV permet de diminuer complètement 90% vraisemblablement des cancers du col de l'utérus, et garçons et filles, aussi des cancers oropharyngés. C'est la campagne de vaccination qui a été mise en place par le ministère de la Santé l'année dernière. Voilà. On viendra après sur les chiffres. Les chiffres ne sont pas glorieux en France en comparaison avec certains autres pays.
Tu veux dire par là qu'il y a une résistance ?
Ah ben en France, je le dis de façon un peu crue, hein, on est le pays le plus bête du monde concernant la vaccination. À Barcelone, en Catalogne, le taux de vaccination des jeunes filles pour de l'HPV est de 85%. En France, on est aux alentours de 37%. Il y a une espèce d'idée de complotisme des anti-vaccins en France qui existe, mais pas uniquement pour l'HPV, c'est aussi vrai pour d'autres vaccinations, et on l'a vu en particulier lors de la Covid, par exemple, il y a 3 ans maintenant. Donc, c'est un élément, la France est, par définition, contre la vaccination. Et moi, je félicite Agnès Buzyn d'avoir fait de telle sorte que la vaccination devienne obligatoire, un certain nombre de vaccins supplémentaires au niveau des enfants.
Alors, ceux qui refusent, les familles qui refusent de faire vacciner leurs enfants, ont à la bouche le fait des risques de la vaccination. Est-ce qu'on peut, on a une idée du pourcentage de risques éventuels ?
Alors, l'HPV, clairement, parce qu'on n'est pas seul à faire vacciner. En Australie, la vaccination HPV est devenue un élément important depuis des années. Ils ont quasiment fait disparaître le cancer du col de l'utérus et ils diminuent les cancers oropharyngés. Il n'y a pas de complications de ces vaccinations.
C'est vraiment quelque chose qu'il faut marteler.
Ben oui, on le martèle, mais il y a toujours un anti-vax qui va te dire « Oui, mais celui-ci a fait un malaise, il est tombé, donc la vaccination donne des effets secondaires. » C'est ce qui s'est passé. Bon. Ça, c'est un élément important. Donc, une approche, disons, au niveau de l'infection. Et puis, il y a aussi, troisième élément, les risques au niveau de l'environnement.
Ah oui.
On connaît des produits carcinogènes, et j'avais vu que le Centre international de recherche sur le cancer, qu'on appelle le CIRC, a classé comme cancérogène ou potentiellement cancérogène 534 agents chimiques, physiques ou biologiques. Alors, il y a des particules fines, certes, mais il y a aussi des éléments qui interviennent à travers les pesticides.
Et tous ces agents, ils sont répertoriés, est-ce qu'ils sont bien représentés ? Il y en a beaucoup. Je pense que certains sont très importants. Il y en a d'autres qui le sont moins, sur les 500 et quelques que tu signales. Est-ce qu'on a une idée sur ceux qui sont les plus dangereux, les plus fréquents ?
On en connaît un, qui est le chlordécone, qui a induit au niveau des Antilles, sur les travailleurs agricoles antillais, une augmentation importante de cancer de la prostate. Et donc, on a éliminé ce produit, ce pesticide, pour la culture
de la banane. Il était peu utilisé sur le plan national. Il était utilisé dans les territoires...
Dans les Antilles.
Oui. Mais pas en France.
Non, en France, il n'y a pas beaucoup de culture de banane en France.
Donc, ce n'est pas un facteur majeur.
Ce n'est pas un facteur majeur. Il y a eu l'amiante. N'oublions pas que l'amiante, alors maintenant on a pris conscience, hein, que l'amiante est à l'origine des mésothéliomes pleuraux et des cancers qui étaient particulièrement graves.
Alors, tous les bâtiments qui étaient riches en amiante n'ont pas été tous détruits.
Exactement. Bon, mais ça va mieux quand même, il y a une prise de conscience. On a une prise de conscience de ce processus environnemental, mais toujours avec un petit peu de retard. Et puis, autre élément, si tu veux, qu'on peut discuter, c'est... Ce sont les pesticides. Alors, les pesticides, c'est compliqué parce que sur un modèle animal, sur les expériences chez les souris, tout est carcinogène. Le problème, c'est effectivement, tu le dis bien, c'est de savoir qui est réellement carcinogène chez l'homme. Bon, quoi qu'il en soit, il y a des études épidémiologiques qui sont intéressantes. En particulier, le cancer du pancréas, qui est un cancer qui devient l'augmentation, l'incidence est importante, qui devient de plus en plus fréquent. Il y a quelques études épidémiologiques qui montreraient que lorsqu'on utilise beaucoup de pesticides, en particulier dans les régions vinicoles, il y aurait une augmentation d'incidence du cancer du pancréas. Alors, je ne dis pas que le cancer du pancréas est lié qu'aux pesticides. Il y a plusieurs causes et on ne connaît pas tout sur le cancer du pancréas. Mais ça doit nous interroger.
Alors, la Bourgogne est une région viticole. Oui. Est-ce qu'effectivement, sur le plan national, des statistiques qui montrent que l'incidence est plus grande que dans un autre pays où il n'y a pas de...
Alors, il y a une étude au niveau du cancéropole Est dont je m'occupe sur le plan scientifique. On a mis en place une cohorte des cancers du pancréas et on est en train d'étudier ce qu'on appelle l'esposome. C'est-à-dire, au cours de la vie, les personnes qui ont un cancer du pancréas ont-ils été, par exemple, vignerons ou bien ont-ils été autour des vignes? Pour l'instant, il y a quelques éléments qui montreraient qu'il y a augmentation d'incidence, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas encore complètement vérifié sur le plan statistique. Il faut être prudent.
Donc le terme exposome, que peut-être il est difficile à comprendre, c'est exposé, les gens qui sont exposés à des risques.
Voilà,
donc l'exposome, c'est la présence de l'ensemble des facteurs qui, chez une personne donnée, peuvent être facilitantes de l'exposition au cancer, c'est...
Alors,
ça
c'est très à la mode le mot exposome, ça vient des États-Unis. C'est démontrer, c'est expliquer au cours de ta vie les différentes expositions à des facteurs carcinogènes, mais qui peuvent être variables. Ça peut aller,
in
utero, par exemple des fœtus, par leur mère exposée, si c'est la mère fume, par exemple. Ça peut être le soleil associé, ça peut être la pollution atmosphérique, les microparticules associées à des pesticides. Et c'est une approche qui est... C'est la consommation de tabac au cours de ta vie. Et ça fait partie d'une sorte de carte d'identité de ton exposition potentielle à des carcinogènes qu'on appelle l'esposome. Et en fonction du gré d'esposome, il y a une prévention qui peut être plus individualisée.
Voilà. Alors, en ce qui concerne les facteurs vis-à-vis desquels on peut être exposé favorisant le cancer, est-ce que quand on est chez soi, à l'intérieur de son appartement ou de sa maison, on peut avoir, parce qu'on a parlé des particules fines, mais on voit ça très bien à proximité de l'autoroute ou je ne sais où, mais est-ce qu'à l'intérieur de son propre habitat, il existe des facteurs potentiels?
Effectivement, en particulier ça a été étudié pour le cancer du sein et l'air intérieur un peu pollué serait aussi en cause, puisqu'on pense que 1,5% des décès annuels par cancer du poumon, voire du cancer du sein, seraient imputables à une mauvaise qualité de l'air à l'intérieur de ton domicile.
Et la mauvaise qualité qui serait liée à la présence de quels facteurs?
Ça peut être, disons...
Des solvants,
par exemple,
des produits ménagers.
Exactement, éventuellement du tabac résiduel, des microparticules. C'est pour ça que, globalement, il est préconisé, de temps en temps, d'ouvrir ses fenêtres.
Ça veut dire qu'à l'extérieur, il y a des polluants, mais que parfois, il vaut mieux quand même aérer chez soi.
Oui, parce que c'est un problème de concentration, si tu veux. Et puis, je crois qu'on n'habite pas tout au centre-ville ou près d'une autoroute. Donc là.
Et on pourrait avoir une règle en disant, il faut ouvrir ses fenêtres tous les matins, pendant un certain temps ou...
Je ne sais pas, ça n'a pas été mis en place, mais je crois que c'est de bon sens de dire que de temps en temps, mais... On le fait.
Oui, mais le bon sens, ce n'est pas toujours très
partagé. Souvent, on ouvre la fenêtre, effectivement, souvent pour éviter les odeurs. Mais globalement, ça permet aussi de renouveler, l'air intérieur. Donc, tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de facteurs comportementaux, infectiologiques et environnementaux qui interviennent dans le début d'un cancer, qu'on appelle la carcinogénèse, et que l'on peut prévenir. Il y a aussi un élément important, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant le cancer. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de prédisposition génétique. Et on commence à travailler sur ces prédispositions génétiques. Je prends l'exemple du cancer du sein. Le cancer du sein, donc par définition, dans Pratiquement 93% est un cancer du sein qu'on appelle sporadique, sans avoir, disons, de forme génétique. Et dans 7 à 10% des cancers du sein, il y a des facteurs de prédisposition génétique qu'on appelle BRCA1, BRCA2. Donc, chez ces femmes qui ont un cancer, on teste les enfants, les filles en particulier, et si elles ont cette mutation elles-mêmes, on peut prévenir le cancer du sein. Alors, il y a une façon qui est de faire ce qu'on appelle des mastectomies avec reconstruction. Et comme ce cancer du sein est souvent associé à un cancer de l'ovaire lorsqu'il y a ces mutations BRCA1, BRCA2, maintenant, on préconise, autour de 50 ans, une ovariectomie bilatérale, c'est-à-dire qu'on enlève les deux ovaires pour prévenir du cancer de l'ovaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une prévention individualisée, induite par nos meilleures connaissances de la génétique, là, qui est une génétique des parents, ce qu'on appelle une génétique germinale constitutionnelle. Et donc, actuellement, il y a beaucoup d'études qui sont en cours, parce qu'il n'y a pas que ce gène-là, il y a certainement d'autres gènes qui interviennent. En particulier, tu sais très bien que quand tu interroges les gens qui fument, ils te disent « Oh, moi, j'ai connu quelqu'un qui a beaucoup fumé et qui n'a jamais fait de cancer du poumon. » C'est vrai. Et inversement, il y a des gens qui ont peu fumé qui font des cancers du poumon. Donc, il y a une sorte de susceptibilité génétique. Il y a d'autres gènes qui interviennent. Il y a beaucoup d'études qui sont actuellement en cours sur comment aborder la prévention à travers la génétique.
Alors ça, c'est une question majeure, parce que est-ce que ça veut dire qu'il faudrait avoir une détection d'une anomalie génétique chez tout le monde, et que si on trouve un facteur génétique bien individualisé, il faut alors intervenir, parfois avec des interventions lourdes, parce qu'une double mastectomie, c'est quand même lourd.
Oui, je sais, c'est... mais globalement...
Alors, comment on peut faire?
D'abord, il faut être sûr que les modifications génétiques que tu vas trouver sont réellement à l'origine du cancer. Ça s'appelle les mutations, en anglais, des driven, une mutation, disons, qui conduisent au cancer. C'est un élément. Actuellement, je pense qu'il faut faire attention, parce qu'on n'est pas sûr de tout. On le sait pour le cancer du sein. Dans le cancer du côlon, on sait qu'il y a des formes héréditaires du cancer du côlon. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir qu'on va systématiquement enlever le côlon à tout le monde.
Parce que souvent, dans le cas de la survenue d'un cancer, c'est plurifactoriel. Il y a un facteur génétique, mais il y en a d'autres. Il y a le facteur environnemental, il y a
d'autres associés. Voilà.
Mais, donc c'est compliqué.
C'est
là,
compliqué. Hein. Par contre, tu vois, il faut éviter d'associer. Si tu as une anomalie génétique qui conduit au cancer, peut-être éviter d'y associer d'autres carcinogènes. Voilà. Par exemple, les estrogènes à haute dose chez une femme qui aurait une mutation BRCA1, BRCA2, avec déjà un risque élevé de faire un cancer du sein.
Donc, ce qui vaut mieux, c'est que s'il y a dans une famille connaissance d'un risque qui s'est déjà manifesté, avoir un examen de son génome pour voir s'il y a des gènes qui risquent d'exprimer des protéines défavorables, et pour non seulement les informer, mais en plus leur conseiller de limiter les autres facteurs qui pourraient intervenir.
Exactement.
C'est comme ça qu'il
faut
faire.
C'est comme ça qu'on voit les choses, mais c'est ce qu'on fait déjà pour le cancer du sein. Quand tu as une patiente qui a une mutation BRCA1 ou BRCA2, on demande systématiquement, on propose, plutôt qu'on demande, on propose à la fratrie, aux enfants, d'effectuer un test pour savoir s'ils sont porteurs ou pas de cette mutation, et ensuite d'avoir une surveillance qui soit, disons, très orientée, voire une intervention que tu qualifies peut-être de lourde, et tu as tout à fait raison.
D'accord. Est-ce que chez l'enfant, le même type de risque peut être considéré? Parce que là, chez l'enfant, s'il y a vraiment une intervention prévue dans le sens, par exemple, d'une double mastectomie, c'est extrêmement compliqué,
oui,
on ne peut pas faire ça.
Il faut savoir que le cancer du sein n'existe pratiquement pas chez l'enfant. Le cancer du sein, enfin, ça paraît partir plus rarement, à partir au-dessus de 20 ans jusqu'à 30
ans. Oui, mais dans la mesure où c'est un risque.
Oui, mais, là aussi, on peut, par une surveillance rapprochée, en particulier maintenant par les IRM, disons, détecter précocement un cancer du sein. Parce que le problème, c'est soit prévenir, soit détecté précocement. C'est le dépistage.
C'est ça. Donc l'essentiel, c'est que les gens soient informés et qu'à partir de là, on prend une attitude de prévention adaptée.
Adaptée. Alors, je reprends mon exemple du cancer du sein jusqu'à chez une femme jeune, par exemple, on détecte une mutation à partir de sa mère qui a fait un cancer du sein. On va surveiller le cancer du sein, mais on peut proposer aussi la mastectomie. Mais il est clair que d'enlever les deux seins avec des reconstructions, c'est un geste lourd que toutes les femmes ne veulent pas forcément accepter. Par exemple, cette mastectomie bilatérale, enlever les seins des deux côtés, est plus facilement acceptée aux États-Unis qu'en France. Et ça, je comprends tout à fait, mais c'est une proposition. Par contre, la surveillance est aussi un bon élément. On surveille par avec des IRM, par exemple. Par contre, à partir de 50 ans, le diagnostic précoce et la surveillance de l'ovaire, c'est très compliqué. Et on sait que le risque de faire un cancer de l'ovaire est très important. Et dans ces cas-là, il faut inciter la femme en bonne santé à avoir une ovariectomie, enlever les deux ovaires, en sachant que sa vie génitale est terminée et que les ovaires, entre guillemets, si je m'exprime peut-être mal, ne servent plus à rien, puisque par définition, il n'y a plus de production d'estrogène par les ovaires à partir du moment, par définition, où on est en ménopause. Donc tu vois, il y a un mélange à la fois de prévention un peu par une chirurgie et aussi de surveillance, de dépistage, mais un dépistage qui est très ciblé, c'est pas un dépistage de masse, ça n'a rien à voir avec le dépistage de masse des cancers du sein. On est devant un dépistage de cancer, c'est une femme à risque du fait de cette mutation. C'est ce qu'on appelle...
Ça, c'est très important parce que j'ai l'impression que beaucoup de femmes ne sont pas au courant du fait que leurs ovaires, passé leur vie génitale et leur vie de reproductrice, entre guillemets, n'ont plus d'utilité apparemment.
Bah oui.
Et ça, c'est une information qui n'est pas diffusée.
C'est très peu diffusé, tu as raison. Et à titre personnel, toute femme de plus de 50 ans qui a terminé sa vie génitale, qui est ménopausée et qui est opérée pour des raisons différentes au niveau du pelvis, à mon sens, devrait faire l'objet d'une ovariectomie bilatérale. C'est quelque chose qui est mal connu. Le cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui est grave. Pour quelle raison? Parce que son diagnostic, il fait très tardivement. Et puis, il n'y a vraiment pas de dépistage du cancer de l'ovaire. Les thérapeutiques, contrairement au cancer du sein, ne sont pas encore, disons, très innovantes. Il y a beaucoup de chimiothérapie, il y a quelques thérapies ciblées, mais ça n'a pas, ce n'est pas l'innovation que l'on voit dans d'autres cancers. Donc pour moi, c'est une possibilité. Pour les femmes qui ont une mutation génétique, de toute façon, on le fait, on le propose. Mais tu as raison, c'est quelque chose qui serait à discuter.
Mais oui. Et alors, avec tout ce que tu viens de nous dire, on voit très bien que la prévention pour le cancer est une prévention individualisée. Elle doit être très personnalisée. Ce n'est pas une prévention qui va se faire de la même façon pour tout le monde.
Il y a un mélange des deux. Je pense que tu as raison, il y a une prévention individualisée, mais aussi il y a une prévention de masse. Le tabac, globalement, il faudrait essayer dans l'avenir de supprimer le tabac. La diminution de consommation d'alcool, c'est vrai, c'est bon. La pollution atmosphérique, les pesticides, c'est quand même quelque chose qui n'est pas qu'individuel, si tu veux. Mais c'est vrai qu'après, par exemple, l'activité physique adaptée qui doit être améliorée, en particulier chez les jeunes, c'est quelque chose qui est à la fois une politique sociétale, si je peux m'exprimer ainsi, et aussi une prise de conscience à l'échelon individuel. Souvent, c'est un mélange des deux.
Alors, comment se fait-il que les mesures de prévention soient finalement insuffisamment utilisées?
Parce que je pense qu'il y a cette notion que de qualité de vie. Et pour un fumeur...
C'est la philosophie du bon vivant.
Voilà,
quoi.
Exactement.
Pour quelqu'un qui mange bien, qui mange bien.
puis, il y a aussi l'idée, par exemple... avant, on mangeait beaucoup de viande rouge. Bon, maintenant, il y a une diminution, mais il fait un temps. Voilà, c'était là aussi, disons, des idées sociétales. C'est pas toujours très simple. Hein. Et puis, tous les cancers, malgré une bonne hygiène de vie, l'absence d'intoxication tabagique, il y a certains cancers qui sont induits et malgré des bonnes règles de prévention.
Alors, on est déjà bien avancé dans notre émission et j'aimerais que pour la fin, tu puisses quand même nous exposer le résultat de l'expérience que tu as eue à Villejuif avec un programme qui était un programme qui s'appelle, je crois, Interception.
Oui.
Ou quelque chose comme ça, qui prenait en compte un certain nombre des grandes lignes que tu viens d'exposer pour la prévention. Alors, comment ça s'est mis en place? Est-ce qu'il est possible de la généraliser?
Alors, première chose, je n'étais pas à Villejuif, mais j'étais à Curie, mais c'est un consoeur de Villejuif, qui s'appelle Suzette de la Loge, qui a mis au point à Gustave Roussy une idée de prise en charge de l'exposition, mais à l'échelon individuel, ciblé. C'est-à-dire essayer pour une personne d'approcher l'exposome, c'est-à-dire son degré d'exposition, à travers son histoire. Son histoire dans son enfance, exposition au soleil, sa consommation de tabac, non seulement à un moment donné, mais disons, le nombre de paquets années, par exemple, au cours de sa vie. Ses processus alimentaire. C'est de l'interrogatoire. Son approche aussi de l'activité physique, son métier, ses différents éléments. Et puis les expositions à d'autres carcinogènes, les travailleurs par exemple agricoles pour les pesticides et autres. Son lieu de vie, près d'une autoroute, on en a parlé, ou bien à la campagne. Donc c'est tout un questionnaire qui est donné. Et à partir de ces questionnaires, c'est une étude qui est en cours, hein. Suzette de la Loge va essayer de déterminer les différents éléments qui pourraient dire à cette personne « Attention, vous avez peut-être un risque de faire un cancer du poumon, un cancer de vessie. » Donc premièrement, arrêter, disons, le carcinogène, en l'occurrence le tabac, mais ça on le sait, ou bien, ayez une alimentation plus saine. Donc c'est ce qu'on appelle une prévention plus individualisée, associée aussi à une approche génétique particulière. S'il y a eu plein de cancers dans la famille, peut-être, comme tu le disais tout à l'heure, il faut s'interroger, est-ce qu'on ne doit pas faire une approche génétique du cancer? On sait maintenant séquencer assez facilement l'ADN à ce niveau-là et voir s'il n'y a pas des facteurs génétiques qui sont des facteurs favorisants héréditaires de certains cancers.
Alors ça aurait peut-être un coût, mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager qu'il y ait une consultation annuelle, par exemple, au moins une fois,
oui.
Pour qu'on ait l'établissement de l'exposome de la personne, qu'on puisse alors avoir avec une rencontre suffisamment prolongée, des explications, l'informant sur ce
bien
que
sûr.
Sont ces risques, sur la façon de les prévenir et sur l'ensemble des mesures qu'elles peuvent prendre compte tenu de leur personnalité.
Bien sûr.
Et ça, on pourrait envisager qu'il y ait
C'est l'objectif. C'est l'objectif, effectivement, c'est de montrer que, globalement, on peut prévenir certains cancers par une bonne description de l'exposome et des règles proposées, disons, à la personne, du pas de patient, là, les
oui.
personnes qui sont à ce moment-là en bonne santé. Tu as tout à fait raison. Cela aura certainement un coût.
Je pense mais si on rapporte ce coût au risque majeur encouru, si on ne les détecte pas suffisamment tôt,
j'entends bien.
Problème.
J'entends bien, mais ça, c'est un autre problème, qui est un problème purement économique. Les effets positifs d'une politique de prévention n'apparaissent que 10 ans ou 15 ans après, si demain on décide de ça. Et comme tu le sais actuellement, les problèmes économiques et les problèmes politiques sont des problèmes à court terme. Donc, peut-être qu'il faudrait investir, mais tous les gouvernements disent qu'il faut investir en prévention. Mais ça ne se fait pas toujours correctement. Ça a un coût, et puis les résultats ne sont pas immédiats.
Non, mais dans le cadre de nos émissions, dont le thème c'est la santé à venir,
oui.
c'est une façon de procéder
tout à fait.
Qu'il faut prendre en compte.
Bien sûr, bien sûr.
Et on peut dire, d'après tout ce qu'on a vu, qu'il y a une évidence à l'intérêt de la prévention, mais il est sûr que la nature de l'évidence, c'est que souvent elle est inaperçue. Et là, déjà, à travers des émissions, à travers des informations, on a la possibilité d'envisager que les choses changent un peu. ce qu'on peut avoir, c'est l'espoir que ce qui est en train de se manifester aujourd'hui se multiplie, en particulier avec des mesures de prévention telles qu'on vient de les voir. Et on invite nos auditrices et auditeurs à nous interroger.
Oui, tout à fait. La prévention, c'est un problème de temporalité. Tu n'agis pas immédiatement.
Bien sûr.
Tu agis à 10, 15 ans.
Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident.
Tout à fait.
Ben Pierre, merci beaucoup pour ce temps passé.
Ça fait plaisir.
Et merci beaucoup pour les informations qui ont été données à nos auditrices, à nos auditeurs, qui, je l'espère, sauront en profiter au maximum. Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
La santé à venir.
À venir.
Professeur Didier pour Radio Shalom Bourgogne.